Je voudrais d'abord remercier chaleureusement les organisateurs de cette journée. D'abord, effectivement, pour m'avoir fait l'honneur de m'inviter. Et par ailleurs, pour m'avoir permis une plongée assez rafraîchissante dans mon passé professionnel. J'ai enfin effectivement été sur le terrain pendant les années 80, puisque entre 1979 et 1990, j'ai été responsable des services aux enfants à la bibliothèque municipale de Bordeaux. Et c'était une période importante sur les relations entre les bibliothèques pour enfants et l'éducation nationale, puisque c'est dans les années 80 qu'est né le concept de bibliothèque-centre documentaire et qu'a été créé le CAPES de documentation et que les bibliothèques pour enfants ont connu réellement un développement qui leur permettait un maillage du territoire assez important. Dans les années 90, comme l'a dit Jacques, j'ai travaillé à La Joie par les livres, où j'étais responsable du centre de documentation. Et c'est donc, j'y reviendrai un peu plus tard, à cette époque-là que des choses relativement importantes ont été organisées sous l'égide de ce qui était à l'époque la Fédération française de coopération en bibliothèque, qui est devenue maintenant la FIL, je ne suis plus exactement sûre du développé exact.
Fédération interrégionale du livre et de la lecture.
Voilà. Et donc la Fédération française de coopération entre bibliothèques regroupait à la fois ce qu'on appelait à l'époque des agences de coopération régionale entre bibliothèques et des instances nationales qui avaient dans leur mission des missions de coopération, dont La Joie par les livres. Donc je représentais La Joie par les livres à la FFCB, donc j'étais associée au travail qui a été fait à l'époque. Et en 1998, je suis arrivée à la Bibliothèque nationale de France, où j'ai fait tout à fait autre chose. Et je laisserai aux autres intervenants le soin de dresser le paysage de ces relations à l'heure actuelle et depuis le début, la fin des années 90 et les années 2000-2010. Donc, je ne prétends pas, dans le temps qui m'est imparti, je crois que j'ai 20 minutes, présenter un panorama complet de l'histoire des relations entre les bibliothèques publiques et le monde scolaire. Je pense qu'on trouvera dans le dossier des pistes bibliographiques pour ceux qui veulent aller plus loin. Et ce sont des pistes bibliographiques à double détente, c'est-à-dire qu'au moins un des articles comporte une bibliographie assez copieuse sur le sujet. Donc si ça vous intéresse, l'aspect historique, vous avez absolument tous les éléments pour pouvoir l'approfondir par la suite. Donc je vais juste évoquer quelques grandes étapes et je terminerai en essayant de poser les questions qui me semblent, alors de mon point de vue extérieur aujourd'hui, des questions qui pourraient être au centre des relations entre les deux univers. Alors, bien en amont des années 80 où j'ai travaillé dans les bibliothèques pour enfants, les relations entre la prise en compte de la lecture par l'instruction publique et par les bibliothèques remontent. Enfin, on peut faire remonter cette histoire à la deuxième moitié du 19e siècle. Et le contexte réellement fondamental, c'est la généralisation de l'instruction publique et de l'alphabétisation, qui a commencé avant la Troisième République. Je ne rentre pas dans le détail, il y a d'excellentes histoires de l'éducation auxquelles vous pouvez vous référer. Le moment important qui est signalé dans toutes les études sur le sujet, c'est la circulaire roulant du 31 mai 1860, c'est-à-dire sous le Second Empire, qui a officialisé la mise en place de ce qu'on appelle une armoire bibliothèque dans toutes les écoles primaires. Et d'ailleurs, j'en ai vu une qui avait été montrée dans une exposition à la BPI, je pense que c'était dans les années 80, sur l'histoire des bibliothèques. Donc il y avait une vraie armoire bibliothèque avec des vrais livres de l'époque dedans, à côté de photos de bibliobus ou d'un exemplaire de la liste Otto, qui était la liste des livres censurés par les Allemands pendant l'occupation. Donc c'était très émouvant de voir ça. Et dans ces armoires bibliothèques, on trouvait des ouvrages avec des listes qui étaient dressées par la hiérarchie de l'instruction publique, puisque ces livres devaient contenir pas seulement des manuels scolaires, mais aussi des ouvrages divers, entre guillemets, de nature éducative ou moralisante. Et ce fonds ne s'adressait pas uniquement aux enfants, il était destiné aussi aux adultes. L'idée étant que des enfants qui apprenaient à lire fassent la lecture à leurs parents le soir à la veillée. Ils devaient donc proposer des lectures utiles à une population qu'on voulait préserver de la tentation des plaisirs faciles ou ouvrir vers le progrès. Le livre contre l'alcool dans les grandes villes, le livre apprenant des méthodes contemporaines à des agriculteurs pour moderniser les exploitations agricoles. Je simplifie. Et c'est dans le même esprit qu'à la même époque, on a ouvert des bibliothèques dans les casernes à l'usage des appelés du contingent. L'objectif explicite étant de lutter contre le péril vénérien. À ce sujet, sur le discours moralisateur autour de l'utilité de la lecture de bons livres, c'est décrit d'une façon tout à fait détaillée, remarquable et lumineuse dans l'ouvrage fondamental de Jean Hébrard et Anne-Marie Chartier, intitulé « Discours sur la lecture 1880-1980 », qui met en parallèle historique les trois discours sur l'école, le discours de l'Église, pour lequel la lecture est, je simplifie, une activité dangereuse en elle-même et qui doit être réservée à des personnes averties, le discours de l'école, pour qui la lecture est une activité utile, mais qui doit se porter sur des ouvrages, sur de bons livres, et le discours des bibliothèques, qui va dans des directions de lecture plus diversifiées, encore que. Donc, à cette époque, les bibliothèques municipales ne s'intéressaient pas au public jeune. Et c'est les bibliothèques privées, les bibliothèques populaires et les bibliothèques associatives qui ont d'abord mis en place des services destinés aux jeunes dans le même souci hygiéniste. Selon Guy Baudin, qui a été longtemps bibliothécaire à la ville de Paris, on a ouvert en 1887 une bibliothèque dans le 3e arrondissement qui était destinée aux apprentis et aux jeunes employés en dessous de 16 ans. Je le cite, l'apprenti est le plus... Enfin, je cite... une des autorités de la ville de Paris que cite Guy Baudin, l'apprenti est le plus souvent livré à lui-même de très bonne heure et exposé aux pires tentations. Que faire les jours de fête après avoir rangé l'atelier? Il ne manque pas de camarades pour acter le précoce épanouissement des instincts pervers. Et dès 1910, Eugène Morel, grand théoricien de la bibliothèque publique, dans son ouvrage intitulé « La librairie publique », donc le terme doit être entendu au terme de bibliothèque, c'est un ouvrage sur les bibliothèques américaines, donc le terme « library » est traduit directement en « librairie ». Dans la librairie publique, il soulignait l'importance des sections enfantines des bibliothèques américaines qui étaient déjà développées dans la deuxième moitié du XIXe siècle pour encourager des pratiques actives de recherche d'informations. Et je cite Eugène Morel, « Loin d'enfermer l'enfant dans un livre, l'unique livre, bréviaire que l'État ordonne à l'instituteur, afin qu'il l'ordonne aux enfants, les Américains appliquent la méthode dite séminaire, qui consiste à présenter à l'enfant plusieurs livres à comparer avec mission de dégager lui-même l'opinion qu'il croit juste. » Et là, on pourrait rentrer dans des développements un peu longs, ce que je ne ferai pas, sur les idées philosophiques et religieuses qui ont présidé à l'organisation des bibliothèques aux États-Unis et en France, et sur les traditions protestantes et catholiques de la façon d'envisager le livre et la lecture. Et donc, on pourrait avoir toute une réflexion autour d'une conception démocratique de la lecture et d'une conception républicaine de la lecture. Ce sont des débats qui ont animé nos échanges avec les chercheurs de l'INRP dans les années 90. Passons là-dessus. La première bibliothèque pour enfants française issue de ce modèle, vous le savez, c'est l'Heure Joyeuse, qui ouvre en 1924 et qui ouvre sous une impulsion américaine, puisque c'est le Book Committee on Children's Library qui, après avoir ouvert une heure joyeuse à Bruxelles, ouvre une heure joyeuse à Paris. Et L'heure joyeuse, c'est le fruit de deux influences importantes et d'un contexte favorisant. Donc cette influence américaine, d'une part, et d'autre part, le bouillonnement pédagogique de l'entre-deux-guerres. L'entre-deux-guerres en France est un moment où l'innovation dans les écoles est extrêmement foisonnante. Et c'est par exemple à l'heure joyeuse que Paul Fauché, qui est le créateur des éditions du Père Castor, va venir pour observer comment les enfants qui fréquentent l'heure joyeuse se saisissent des projets d'albums qu'ils souhaitent publier. Et lui-même est influencé par les idées de pédagogie nouvelle, de la nouvelle éducation et de la pensée du pédagogue tchèque František Bakulé. Donc, il va lui-même d'ailleurs créer une école expérimentale où j'ai eu le bonheur d'effectuer ma scolarité maternelle. Donc, je n'ai jamais appris à lire. Jamais. La fréquentation de l'heure joyeuse par les écoles restera longtemps limitée. Et une des raisons qui est avancée, mais ce n'est probablement pas la seule, était que l'heure joyeuse était un lieu mixte. Ce qui était extrêmement... avant-gardiste par rapport à ce que était l'école à l'époque. Moi-même, j'ai fait ma scolarité primaire dans une école où les filles étaient soigneusement séparées des garçons par un mur et ma scolarité secondaire jusqu'en 1968 dans une caserne de filles publique. Voilà. Relation, même si l'heure joyeuse souhaite être ouverte aux écoles, la fréquentation restera assez limitée. Et à l'heure joyeuse, si la joie est bien associée à la lecture, si l'autonomie des enfants est encouragée, c'est dans un cadre bien défini. C'est la liberté, pas l'anarchie. Et les mauvaises lectures sont vigoureusement stigmatisées par Mathilde Le Riche. Je cite un extrait de son livre sur les journaux pour enfants. Les journaux les plus mauvais sont ceux qui ont le plus de succès. Leurs rédacteurs connaissent l'art de flatter bassement, sans doute, mais sûrement les goûts des lecteurs. Je passe. Le lecteur se grise de ces pages fiévreuses ou se laisse prendre par un molle engourdissement, stupéfiant à bon marché qui annihile sa pensée, sa force de réagir. Il est stupide et béat. Peut-on l'accuser ? Non, certes, mais n'est-ce pas un peu décevant de voir circuler librement dans un pays soi-disant cultivé et civilisé des journaux si nocifs que lentement, ils salissent, ils abêtissent l'enfant ? Bon, on pourrait entendre certains discours sur Internet aujourd'hui qui n'en sont pas si éloignés. Une des conséquences, vous le savez, c'est la loi de 49 sur les publications adressées à la jeunesse qui organise des modalités de censure de publications pour la jeunesse ou non. Au fil du temps, je passe sur les années 50 et jusqu'aux années 60, les bibliothèques municipales vont progressivement se doter de sections enfantines. Celles-ci sont parfois directement inspirées du modèle de l'heure joyeuse, à Versailles, à Toulouse, dans d'autres endroits, et souvent plus rudimentaires. Et dès 1900, alors je ne suis pas sûre de la date, ça dépend des sources, 54 ou 51, Marguerite Grigny, bibliothécaire de l'heure joyeuse, est chargée par Julien Quin de l'organisation de l'obsession jeunesse du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire, le futur CFB jeunesse. C'est à partir de 65 que la joie par les livres, qui a été inspirée comme l'heure joyeuse par l'exemple américain, va donner un nouveau souffle au projet. Et elle se dote des outils nécessaires à la diffusion de ses idées, la bibliothèque expérimentale de Clamart, une revue spécialisée, des accueils de stagiaires, la constitution d'un fonds de référence et une ouverture importante sur l'international. Elle se verra confier la responsabilité du CFB jeunesse à la fin des années 60 et le contexte de la diffusion le contexte est favorable à la diffusion de ses idées. Les années 60, c'est le développement de l'école maternelle, donc la création d'un nouveau public d'enfants, l'allongement de la durée obligatoire de la scolarité. L'édition pour la jeunesse à cette époque se développe et crée de nouveaux types de livres en destination des enfants. C'est là qu'on voit arriver les grandes maisons d'édition d'albums en particulier. La lecture publique se modernise et les ouvertures de bibliothèques enfantines se multiplient. Cependant, les bibliothèques se multiplient à partir d'un projet qui leur est propre, ambitieux et largement démarqué du projet de l'école tel que ces nouvelles professionnelles perçoivent à l'époque. Mais le problème, c'est que les bibliothèques pour enfants ne sont pas obligatoires. et que leurs responsables se rendent rapidement compte que pour toucher beaucoup d'enfants, la collaboration avec l'école est inévitable. Je cite, on peut citer par exemple à ce sujet un article d'Anne Marinet, qui est toujours bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de Toulouse, publié dans le BBF en 1974, qui s'intitule « La liaison école-bibliothèque, quelques réflexions à l'issue d'une année de travail avec les classes » et qui pose de façon très claire les enjeux de cette collaboration, ses avantages et ses limites. Donc les bibliothèques mettent à tour de bras en place des visites de classe, d'autant que, on ne le dit pas assez, beaucoup de ces bibliothèques enfantines, en fait, ont été créées sous l'impulsion du milieu scolaire, qui a servi de groupe de pression auprès des municipalités pour en demander la création à l'époque. Donc des visites de classe vont être mises en place, mais cette fréquentation et la cohabitation entre les professionnels des deux structures accentuent plus qu'elles ne tempèrent le fossé idéologique entre les deux institutions. Les bibliothécaires pour enfants, qui sont porteuses d'une, je dis porteuses, c'était quasiment exclusivement des femmes, d'une culture professionnelle forte, ont assis la légitimité de leur nouveau métier sur une critique des autres institutions, la famille et l'école. Et c'est ainsi que beaucoup de bibliothèques pour enfants ont été interdites aux parents dans les débuts. C'était le cas de la bibliothèque publique d'information, de la bibliothèque pour enfants qui existait à l'intérieur du centre Pompidou. À cette critique de la famille s'ajoute une critique de l'école virulente au nom de nouvelles valeurs, la liberté et surtout, Jacques y a fait allusion, le plaisir de lire. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Si vous voulez, vous pouvez lire l'article que Nick Diamant et moi-même avons écrit sur le sujet. Il est... Il a un titre provocateur, mais le contenu de l'article est plus nuancé. Comme le dit Jean Hébrard en 1991, durant les années 70, la lecture en bibliothèque apparaîtra concurrente de la lecture scolaire, à l'école le rôle ingrat d'apprendre à lire aux enfants, et à la bibliothèque le privilège de développer l'imaginaire enfantin au moyen du livre et de l'animation que suscite sa pratique. Le contexte idéologique est pourtant pas si défavorable que ça, puisque depuis mai 68, un vent nouveau a soufflé sur l'éducation nationale. D'aucuns diront de nos jours un vent mauvais, peut-être. Si beaucoup de nouvelles bibliothécaires pour enfants sont des déçus de l'éducation nationale, beaucoup d'instituteurs sont à la recherche d'idées pédagogiques nouvelles. Et donc, à ce moment-là, la joie par les livres saura nouer des alliances avec des chercheurs, en particulier avec des chercheurs de l'Institut national de recherche pédagogique, et qui vont déboucher dans les années 80 sur la mise au point conjointe de ces penseurs des bibliothèques pour enfants et de ces penseurs de l'éducation nationale sur le projet de bibliothèque centre documentaire, qui est très inspiré du modèle de la bibliothèque enfantine, mais qui trouve sa localisation au sein de l'école. Alors, si la BCD, à l'époque, est accueillie favorablement par les pouvoirs publics, des circulaires ministériels en encourageront la création, des moyens seront dégagés pour en créer à titre expérimental dans un certain nombre d'académies, de nombreuses journées d'études, séminaires, travaux conjoints vont être publiés à cette époque-là. Elle va néanmoins peiner à dépasser le stade de l'expérimentation dans son modèle canonique. Parce qu'elle suppose une remise en cause radicale des méthodes pédagogiques traditionnelles, c'est-à-dire qu'il s'agit de décloisonner l'école et que beaucoup d'instituteurs sont réticents à organiser ce décloisonnement. Et d'autre part, parce qu'elle suppose des moyens importants en personnel, locaux et crédits d'acquisition. Et d'ailleurs, ça pourrait être une pomme de discorde avec les bibliothécaires, puisque moi je me souviens que dans les années 80, j'ai été interrogée en tant que responsable des services pour les enfants sur l'opportunité, par la mairie, sur l'opportunité de créer des BCD dans les écoles de la ville. J'ai dit, mais bien sûr, c'est une idée géniale, il faut le faire. Et on m'a dit, oui, mais ça va être pris sur les crédits de la bibliothèque municipale. Alors là, je suis devenue un peu plus réticente. Voilà. Donc, pour toutes ces raisons, la BCD, même si beaucoup de structures qui s'appellent BCD existent de par le territoire, les BCD n'ont pas, contrairement aux CDI qui sont institutionnellement, font partie des établissements secondaires, les BCD ne sont pas obligatoires. J'ai dit les CDI pour parler rapidement de la coopération avec les collèges, parce que la relation avec l'éducation nationale ne se fait pas qu'avec l'enseignement primaire. La coopération avec le collège, dans mon expérience, a été beaucoup plus difficile, pour des raisons d'organisation administrative. D'abord, puisque les collèges relèvent des départements et les bibliothèques municipales, évidemment, relèvent des villes. Ce qui était avant les bibliothèques centrales de prêt et qui organisaient leur action de façon très massive sur la desserte des écoles du département dans les années jusqu'à la décentralisation des années 80. À cette époque-là, les BCP passent de la tutelle de l'État à la tutelle des conseils généraux et se désengagent largement de la desserte des écoles pour s'organiser vers d'autres formes de desserte s'adressant à des publics plus diversifiés. Et donc, mais elles ne peuvent pas s'en désintéresser complètement. Donc, autant les relations entre bibliothécaires pour enfants et enseignants du primaire dans une ville sont relativement simples, à condition que tout le monde y mette de la bonne volonté, là, c'est plus complexe. Et l'autre problème majeur, je pense, c'est le fait que dans une classe donnée dans l'enseignement secondaire, la responsabilité est partagée entre plusieurs professeurs. Donc c'est beaucoup plus difficile de monter des projets avec des classes de l'enseignement, du moins ça l'était à mon époque, peut-être que ça a changé, de monter des projets communs avec plusieurs interlocuteurs. Au début des années 90, divers facteurs ont amené à réinterroger la problématique. Donc les difficultés de généralisation de la BCD que j'ai évoquées et la diversification des actions de partenariat, en revanche, entre bibliothèques publiques et monde scolaire. De nouveaux dispositifs sont mis en place, les ZEP, les contrats ville lecture, le soutien scolaire, d'autres encore. Et les deux univers sont interrogés par les évolutions sociales et par l'émergence de la question de l'illettrisme. Donc, à cette époque, le Conseil supérieur des bibliothèques s'empare de la problématique dans ses rapports annuels et l'Association des bibliothécaires français consacre en 1992 son congrès annuel à éducation et bibliothèque. Donc, j'en arrive à 92-93. Donc, comme on le disait, la FFCB, à cette époque-là, a bénéficié d'un contexte favorable puisque 93, c'est l'époque du ministère conjoint de l'éducation nationale et de la culture de Jack Lang. Et donc, à cette époque-là, le cabinet du ministre était à la recherche de projets associant les deux parties du ministère. Et donc, notre projet est tombé à pic. Nous souhaitions lancer une enquête pour envisager une question qui avait été peu envisagée précédemment, qui était la question de l'évaluation. Certes, la bibliothèque pour enfants épanouit l'enfant. Certes, la BCD épanouit l'enfant. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que, par rapport à quels objectifs? Ces organisations étaient présentées comme étant bénéfiques en elles-mêmes. Mais personne ne se posait la question de savoir à quoi ça servait réellement et si ça remplissait effectivement, pour autant qu'on ait défini des objectifs, si on les avait atteints. Donc il nous a semblé utile de mener une évaluation sur le sujet et donc nous avons reçu un financement et la bénédiction du ministère, ce qui était très, très important, pour mieux cerner l'état des pratiques, des partenariats et des attentes des partenaires. Enquête qui a été bénéficiée donc de la structure décentralisée de la FFCB qui permettait d'avoir des antennes en région. Et donc je tiens à saluer là Béatrice Pedot, qui à l'époque était la déléguée générale de la FFCB et qui a organisé tout ça de main de maître avec un zèle infatigable. L'enquête et l'analyse de ces résultats a été confiée à Jean-Marie Privat, universitaire et sociologue, et Université d'été, dont les actes ont été publiés par le CRDP de Créteil, a été organisée en 1993 à la Grande Motte. C'est une référence historique. J'y étais. On s'est bien amusé. Je ne vous présenterai pas en détail les actes de cette université. Il y a eu des publications sur le sujet. Les actes ont été publiés.
Vous avez les références dans le dossier.
Voilà. Je voudrais juste, au passage, évoquer l'intervention de Francis Marcoing, qui d'ailleurs avait marqué aussi Geneviève Bordet quand elle avait fait la note de lecture dans la revue des livres pour enfants sur la publication de l'enquête. Et je trouvais que Francis Marcoing est un chercheur en littérature de jeunesse dont je trouve qu'elle permet peut-être de dépasser des débats très stériles autour de lecture obligatoire, lecture plaisir, en parlant plutôt de lecture intensive et de lecture extensive. Et que ce qui sont des termes peu valorisés, mais qui permettent de définir les approches de l'école et de la bibliothèque de façon complémentaire et pas antagoniste. Ce qui, je pense, était une excellente chose. Donc l'université d'été a débouché sur des recommandations, dont certaines ont connu des prolongements, ce qui n'est pas toujours le cas et ce qui est un motif de satisfaction. Donc le guide de la coopération bibliothèque-école auquel Jacques a fait allusion tout à l'heure a été publié en 1996, conjointement par le CRDP de Créteil et la FFCB. Le CRDP de Créteil a joué un rôle très moteur comme tête de proue de l'éducation nationale dans l'innovation. Vous savez qu'il publie une revue qui s'appelle Argos, revue des BCD et des CDI. On devait trouver des partenaires, d'excellents partenaires sans lesquels on n'aurait rien pu faire. Donc le guide de la coopération bibliothèque-école qui était destiné à servir de boîte à outils aux candidats des partenariats. Et il donnait des pistes pour établir des conventions dont certaines ont été effectivement mises en œuvre dans des villes, des départements ou des régions. Et cette démarche répondait aux soucis que Jean Goesgen, à l'époque inspecteur général des bibliothèques, avait exprimé lors du congrès de l'ABF en 1992. L'importance des conventionnements, l'importance de mettre en place des partenariats à long terme, l'importance de l'évaluation, l'importance des réseaux, l'importance de la mise au point d'outils communs et toute question qui, je pense, reste. Donc, depuis 1998, je ne m'occupe donc plus, absolument plus des relations entre les bibliothèques publiques et le monde scolaire. Et donc, je laisserai les autres intervenants parler de la situation actuelle ou de ce qui s'est passé depuis 1998. On m'a aussi interrogé sur ce qui me semblait être des questions qui se posent aujourd'hui dans ce domaine-là. Bon, je ne suis pas bien placée pour être exhaustive là-dessus. Moi, il me semble, enfin, il y en a deux en tout cas qui me semblent importantes. La première, c'est celle de la lecture des étudiants et des rapports entre bibliothèques universitaires et bibliothèques publiques, qui est une problématique qui s'est beaucoup développée dans les dernières années. Et pour le coup, à la BNF, on est concerné, puisque nous avons quelque chose que beaucoup de mes collègues ne veulent pas appeler une structure de lecture publique, mais qui pour moi en est une, qui est la bibliothèque du Haut-Jardin. Et voilà. Et donc, il y a eu là-dessus, moi je trouve une étude extrêmement intéressante qui a été faite à Bordeaux, auprès des étudiants qui fréquentent la bibliothèque universitaire de Bordeaux sur leur pratique d'utilisation d'autres bibliothèques sur l'agglomération. Je ne crois pas que ce soit les références soient dans votre... mais je pourrais la retrouver. Elle est vraiment très très bien. Alors pas seulement évidemment la lecture, il ne s'agit plus vraiment de la lecture des enfants, il s'agit de la lecture des jeunes adultes, mais il s'agit quand même des relations entre les bibliothèques publiques et les écoles. Donc voilà, je ne m'étends pas là-dessus, mais il y aurait beaucoup, on pourrait faire des journées d'études là-dessus, il y en a eu, il y en aura. Et l'autre, et alors celle-là elle est de taille, elle nous est posée par notre entrée à tous dans le monde de l'internet. Depuis les années 90, le paysage est complètement bouleversé et je pense qu'on ne sera pas trop entre nos deux institutions pour essayer de définir de façon claire des objectifs communs. Alors les questions, moi je n'ai que des questions, je n'ai pas de réponse. Que transmettre et comment transmettre à ce qu'on appelle les digital natives ce qui nous semble essentiel de nos savoirs et de notre expérience. Quelles pratiques de lecture de quels nouveaux objets? Je pense au livre qui vient d'être publié au Cercle de la librairie sur lecture et lecteur à l'ère d'Internet. Qu'est-ce qui reste de la lecture littéraire? Est-ce que ça sera seulement une activité de vieille femme? Comment trouver de l'information? Quelle relation entre les acteurs traditionnels de la chaîne du livre et les nouveaux entrées dans le paysage? Qu'est-ce qu'on fait avec Orange? Et comment dégager des moyens matériels et humains dans un monde en crise? Je ne suis pas tout à fait sûre que j'aurai des réponses à mes questions aujourd'hui, mais je pense que c'est bien qu'on essaye d'y réfléchir ensemble. Je vous remercie.